efficacement vos projets en toutes circonstances grâce à une épargne sécurisée Suno Assurance qui vous propose Priorité Santé. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose de réécouter l'émission du 15 novembre dernier que nous avions consacrée à l'hypnose médicale. L'hypnose, cette modification de la perception à des fins thérapeutiques, désormais enseignée dans certaines facultés de médecine, utilisée en salle d'opération lors d'interventions chirurgicales, en salle de naissance et parfois associée à l'anesthésie. L'hypnose, un phénomène naturel que certains médecins emploient pour accompagner un patient déterminé à se libérer d'une addiction ou qui essaye de se débarrasser d'un stress intolérable. Si l'hypnose n'enlève pas les symptômes, cet état, cette perception élargie propose de changer le contexte et de quitter le contrôle intellectuel pour passer en mode sensoriel. Une pause du temps dans l'instant, une pause dans l'espace, difficile à expliquer, difficile à comprendre. Et si l'Institut national de la santé et de la recherche médicale lui a consacré un rapport qui conclut à son intérêt thérapeutique, l'hypnose est encore loin d'avoir convaincu l'ensemble du corps médical. Avec nous, le docteur Jean-Marc Benayem, bonjour. Vous êtes médecin hypnothérapeute au Centre de la douleur à l'Hôtel Dieu à Paris et vous dirigez la collection « J'ose l'hypnose » aux éditions InPress. C'est dans cette collection que le docteur Grégory Choucroune, qui est aussi avec nous, a signé « L'hypnose, comment ça marche ?» Le docteur Grégory Choucroune, cardiologue et hypnothérapeute à Paris. En seconde partie de Priorité Santé, nous retrouvons en ligne de Casablanca le docteur Myriam Ensiri, médecin généraliste, présidente de l'association marocaine d'hypnose clinique. Et puis en fin d'émission, nous retrouverons le docteur Jean-Marc Sen, médecin du sport, médecin de l'équipe de France de judo.
RFI.
Docteur Jean-Marc Benayem, vous dirigez le diplôme universitaire d'hypnose médicale à Paris 6, Pitié-Salpêtrière, qui, aujourd'hui, vient suivre vos cours.
Des médecins, toutes spécialités, des sages-femmes, des dentistes, et vraiment toutes les spécialités, généralistes, cardiologues, gastro-entérologues, gynécologues, parce que on s'est demandé, nous aussi, ben pourquoi toutes ces spécialités s'intéressent, dermatologues, et en fait, parce que l'hypnose est tellement naturelle qu'elle vient aider toutes ces pratiques différentes.
Docteur Grégory Choucroune, comment se déroule une séance d'hypnose? On va essayer d'expliquer aux auditeurs, notamment pour sortir d'un certain nombre de préjugés, comment se passe par exemple la première consultation.
La première consultation, en fait, on peut proposer à un patient avec lequel on a noué contact. Moi, personnellement, j'aime bien voir les patients précédemment. Je suis cardiologue, donc j'ai une activité clinique. Et puis avec eux, on évalue un petit peu leurs besoins. Peut-être que l'hypnose peut apporter quelque chose pour traiter la tension ou les addictions au tabac ou, des palpitations, une angoisse, un stress particulier et pour résoudre des symptômes. Donc, arrivé à ce stade, on se connaît déjà. On va proposer dans un second temps une séance d'hypnose pour lequel on va se préparer. Je pense que c'est important aussi de savoir que de mon côté, je prépare la séance parce qu'il faut une atmosphère un petit peu calme, sortir du cadre habituel de la consultation. Et pour les patients, il faut aussi pouvoir quelque part intégrer le fait qu'on va rentrer dans la consultation. C'est déjà une entrée dans l'hypnose. Donc il y a quelques préparations et petit à petit, l'idée fait corps. Et vient le rendez-vous en fait de l'hypnose où il faut, selon un petit peu les modalités hein, qui sont propres aux praticiens et puis parfois au contact du patient, se proposer une atmosphère de confiance, de calme et puis petit à petit partir dans une induction hypnotique en fonction du terrain, en fonction du ressenti qui soit plus ou moins longue, plus ou moins élaborée, plus ou moins douce, plus ou moins technique parfois. avant effectivement de rentrer dans le cadre de la séance. Il faut prévoir un petit peu de temps, il faut mettre son esprit un petit peu au contact de l'autre, et c'est un moment qui peut être jugé intense mais aussi assez apaisant. Donc c'est une séance qui est plutôt agréable.
Vous dites induction, ça veut dire quoi? C'est un moment où on se relaxe véritablement, où on se met un petit peu à quitter le présent.
Voilà, c'est un moment où il va y avoir un contact qui se crée entre le médecin et le patient, et au gré d'un fil conversationnel, un petit peu comme à la radio par exemple, une histoire va se créer, petit à petit des suggestions vont arriver, et petit à petit on va rentrer dans un déroulement, dans une chronologie particulière, et pouvoir un petit peu scinder sa vie habituelle du déroulement de la consultation qui est en train d'arriver. Et petit à petit, c'est comme ça que l'entrée dans l'hypnose se fait.
Docteur Jean-Marc Benayem, comment se passe en fait la prescription d'hypnose? C'est un médecin qui va conseiller à son patient, ou c'est un patient qui va avoir entendu parler de cette pratique et qui va être attiré, curieux, intéressé?
Les premières années, il y a peut-être 30 ans, c'était grâce aux médias. Donc les patients venaient parce qu'ils avaient lu, entendu que l'hypnose revenait dans le champ de la médecine. Et depuis une dizaine d'années, ce sont les collègues, enfin beaucoup, les deux bien sûr, les collègues qui nous envoient, des gastro-entérologues, des médecins généralistes, des psychiatres qui ont entendu dire que et qui envoient pour résoudre certains problèmes.
Ça veut dire qu'en général, ce sont des problèmes que rien d'autre finalement n'a réussi à régler, ou c'est en plus une sorte d'approche double avec la médecine traditionnelle, ce recours pour appuyer ce qui est fait par ailleurs?
C'est que quand on pratique la médecine, on s'aperçoit que les médicaments ont des limites. Si à chaque fois que quelqu'un a une insomnie, on le donne un somnifère, s'il a mal, on le donne un antalgique, s'il est déprimé, on le donne un antidépresseur, on dit mais il n'a pas des ressources, ce patient, et on ne pourrait pas les mobiliser, ces ressources. Donc l'idée de l'hypnose, c'est ça, c'est de mobiliser quelqu'un qui était plutôt passif dans ce qui lui arrivait. Et l'hypnose vient justement activer quelque chose de ses possibilités pour sortir d'une souffrance.
Et comment est-ce qu'on repère, comment est-ce qu'on constate, docteur Jean-Marc Benayem, les signes d'acceptation pendant la séance d'hypnose? Est-ce qu'il y a quelque chose, une modification physique qui fait que vous dites ça y est, on va passer en deuxième phase, peut-être vers la transe?
Oui, il y a des signes physiologiques, c'est très étudié, c'est-à-dire que le patient commence à moins parler, son visage devient calme, il est très présent, très attentif à ce qui se passe, mais il est plus dans du sensoriel que dans la maîtrise, comme ça a été dit juste avant. Ce qui est intéressant, c'est que la personne redevient d'une certaine manière hypersensible pour pouvoir modifier une perception. À quoi elle est sensible? Elle est sensible à tout, à l'espace, à l'environnement, à sa vie, à ses amis, à sa famille. Et elles seront hyper présentes pour pouvoir trouver une solution à sa souffrance.
Alors, il y a ces signes visibles. Il y a aussi ce que démontre l'imagerie cérébrale. Hein, quand on passe justement des IRM, il y a tout un champ comme ça qui s'est arrêté pour observer ce qui se passe. Justement, quelle transformation sur cette activité du cerveau?
On s'est demandé s'il y avait une image cérébrale spécifique de l'hypnose. En fait, pas vraiment, mais il y a tout de même des modifications qu'on peut repérer. Il y a une première étape qui ressemble plutôt à de la relaxation, et effectivement, il y a des désactivations qui montrent que la personne est en train de se détendre. Et puis, il y a une deuxième étape qui nous a étonnés, mais pas tant que ça finalement, où là c'est plutôt une hyperactivation des processus attentionnels. C'est-à-dire que la personne n'est pas du tout en train de se détendre et de dormir, mais au contraire, il y a comme un décloisonnement des différentes zones cérébrales où la personne est en train de résoudre quelque chose, d'avoir, comme on dit, entre guillemets, une illumination. Elle dit « Ah, mais j'ai trouvé une réponse. Ah, mais il me semble que. Ah, mais je sens une légèreté. » Et ça, ça se traduit au niveau cérébral par une hyperactivation et pas l'inverse. Donc finalement, l'hypnose, c'est plutôt pour réveiller, pas pour endormir.
Docteur Grégory Choucroune, qu'est-ce qui se passe au moment de la transe, au moment de cette transe au niveau physique? Ce deuxième palier, on a eu déjà...
Au niveau physique, c'est-à-dire au niveau du ressenti du patient ou au niveau de l'expression physique du patient?
Les deux. D'abord, qu'est-ce que vous voyez? Comment est-ce que vous identifiez? Vous dites, ça y est, la transe a commencé.
On est en contact avec la transe quand elle arrive. Donc, on peut l'observer. On peut voir chez les patients qui ont pris le parti de somnoler un petit peu, de rentrer vraiment dans le sommeil, de l'accepter. On peut voir des mouvements oculaires un petit peu, un faciès qui peut être soit vraiment très détendu avec des muscles qui sont vraiment relâchés, soit parfois qui peut avoir des sortes de mimiques comme si c'était un vécu intense dans mon intérieur. En fait, ça ressemble assez à un sommeil observable. Mais on sait très bien qu'il y a un fil rouge, il y a un lien, c'est la parole. La parole ou le silence aussi, qui a un lien entre les deux entre le patient et le médecin. Et ce lien, en fait, permet de diriger, de continuer à guider le patient qui n'est pas seul dans sa transe et puis qui peut recevoir des suggestions hypnotiques, médicales, thérapeutiques, et lui-même se proposer dans les silences, dans les situations qu'il imagine, des solutions, et donc faire revenir en lui des forces bénéfiques. Donc, ce qui est important, il me semble, c'est qu'on a l'impression d'être en contact d'une sorte de sommeil, mais qui reste une activation, mais qui est paisible et qui ressemble à quelque chose de bénéfique.
Est-ce qu'il y a des éléments qui peuvent faciliter cette transe, la voix, le toucher, quelles ressources justement au niveau des sens?
Alors, le toucher imaginatif, je pense que on peut provoquer, effectivement, on peut proposer à certains types de patients qui sont, voilà, on est certains types de personnes différentes. Il y a des musiciens, il y a des sportifs, il y a des intellectuels, il y a des gens qui sont très cartésiens, très terre à terre. Donc on peut se proposer dans l'induction et puis dans le fil directeur de la transe, des portes d'entrée. Par exemple, on peut faire appel à différents types de mélodies. On peut même proposer de la musique pour les patients, pour qu'ils puissent rentrer en contact avec eux-mêmes, si c'est quelque chose qui les guide beaucoup. Ou pour les patients très actifs, très sportifs, on peut leur proposer des sensations proprioceptives, physiques, être dans un endroit, se déplacer, s'arrêter, ne rien faire aussi, ça peut être une sensation physique intense. Et ça peut leur faciliter l'entrée dans la transe.
Docteur Grégory Choucroun, docteur Jean-Marc Benayem, priorité santé continue, on se retrouve dans un instant.
Regarde-moi dans les yeux quand je te parle.
Aie confiance, crois en moi, que je puisse veiller sur toi. Fais un somme sans méfiance. Je suis là, aie confiance.
Qu'a le python géant qui hypnotise ses proies, extrait du livre de la jungle en 1967, cette scène du dessin animé de Walt Disney qui nous amène à parler de l'hypnose spectacle, hein, qui se distingue de notre sujet, l'hypnose médicale, même si, docteur Jean-Marc Benayem, ces deux pratiques reposent sur certains ressorts identiques.
Oui, plus ou moins. C'est-à-dire que l'hypnose spectacle nous inquiète dans le sens où elle montre une image de l'hypnose qui n'est pas celle du tout de la thérapie. Mais on peut expliquer ça, c'est un peu expérimental. Lorsque l'on a une influence comme le serpent sur Mowgli, cette influence, dans ce cas-là, n'est pas très bienveillante.
C'est une image de manipulation, c'est dangereux.
Voilà, c'est
un prédateur. Passe,
voilà, le terme est donné. Et c'est un prédateur. Donc, ce qui se passe au music hall, c'est qu'on manipule, pas forcément méchamment, mais un peu avec des moqueries, on manipule quelqu'un et on montre ainsi l'influençabilité de l'être humain. Donc, pour nous, expérimentalement, c'est intéressant de se rendre compte qu'une personne est très vulnérable. Et ensuite, nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas de la rendre vulnérable, mais c'est de la rendre souple. Et ensuite, une fois qu'elle est souple, elle va pouvoir modifier une perception. Voilà, c'est l'autre étape qui nous intéresse.
Alors, on va rentrer dans le détail sur les indications de l'hypnose médicale, mais si vous le voulez bien, on va d'abord écouter ce témoignage. À Alpha Diallo, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chargé de communication en région parisienne. Dans quelles circonstances est-ce que vous avez eu recours à l'hypnose ?
J'ai eu recours à l'hypnose tout simplement pour arrêter de fumer sur les conseils d'une amie qui était de passage chez moi au cours d'une discussion. Moi, je suis sorti sur le balcon pour fumer une cigarette, j'en ai proposé une et elle m'a dit ben, moi j'ai arrêté de fumer, puis surtout mon mari qui fumait 2 paquets de cigarettes, etc. etc. J'ai dit c'est quoi l'adresse ? C'est quoi le truc ?
C'était quoi ? C'était justement un médecin ? Un spécialiste, un praticien ?
Alors, c'est un médecin généraliste spécialisé dans l'hypnose, dans ce qu'on appelle l'hypnose directionnelle. C'est-à-dire que vous êtes conscient, vous écoutez, on vous parle.
Les yeux ouverts ?
Non, les yeux fermés. Et vous ne répondez pas. Moi, ce qu'on m'a demandé, c'est par exemple s'il y a un signe qui puisse manifester mon accord ou mon désaccord. Et effectivement, il y a des choses. J'ai ma main qui s'est levée tout d'un coup ou ma tête qui a tourné d'un seul coup comme ça. Voilà, ce sont des choses qui sont passées pendant la séance d'hypnose, une séance qui a duré, je dirais, sur sa totalité, 35 à 40 minutes avec, on va dire, 10 minutes, un quart d'heure de conversation avant.
Alors, une seule séance, une seule et unique séance ?
Alors, pour moi, ça a été une seule et unique séance et efficace. Pour d'autres, je sais que ça a été plusieurs séances. Je pense que ça dépend aussi du fait qu'on soit réceptif ou pas à ce genre de pratique. C'est sûr que si vous arrivez chez, entre guillemets, un médecin qui pratique l'hypnose et que vous n'y croyez pas du tout, ça ne va pas marcher.
Une autre question sur votre détermination. Quand vous avez passé la porte du cabinet médical, est-ce que vous étiez déterminé à arrêter la cigarette ?
Alors, moi, j'étais déterminé. J'étais quand même très déterminé à arrêter de fumer. Ça faisait... je fumais depuis plus de 20 ans. J'ai jamais été un gros, gros fumeur.
Est-ce que vous aviez arrêté avant ?
Non, j'avais jamais complètement arrêté avant. C'est-à-dire que j'arrivais à diminuer à 2 cigarettes, 3 cigarettes. Et puis, dès qu'il y avait un peu de stress ici, de stress là, je remontais à 10, à 15. Quand je sortais, c'était souvent le paquet.
Le tabac, vous avez arrêté. Est-ce que vous feriez appel à cette pratique, à l'hypnose, pour traiter d'autres problèmes éventuellement ?
Oui.
Par exemple, lesquels ? Vous pensez à quoi ?
Je pense qu'on peut régler des problématiques personnelles à travers l'hypnose. Moi-même, je ne m'étendrai pas ici là-dessus, mais moi-même, j'en ai réglé, oui, via l'hypnose.
Et votre entourage, il s'est interrogé justement sur cet arrêt avec des gens qui doutaient peut-être, des gens qui posaient des questions ?
Oui, bien sûr qu'on m'a posé beaucoup de questions parce que ça suscite la curiosité. Vous pensez bien à l'hypnose, ah bon, tu t'es fait hypnotiser, comment c'était, et alors qu'est-ce que raconte, etc., etc. Donc effectivement, j'ai raconté, moi voilà, j'ai fait ma séance d'hypnose, je suis sorti de là, je me suis dit bon, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas ? Je suis rentré au travail, j'ai repris la ligne 6 du métro, et puis je suis allé déjeuner, je suis remonté, et très sincèrement, 3 jours après... Au cours d'un énervement, j'ai repris une cigarette. J'en ai pris 3 bouffées, je l'ai éteinte. C'est la dernière fois que j'ai goûté à une cigarette.
Est-ce que vous avez compris ce qui vous est arrivé ?
Je pense que l'hypnose met un mécanisme en marche qui fait qu'on rejette le tabac. On a plus envie d'inhaler cette chose-là, d'avoir cette odeur en permanence.
Mais vous avez compris comment tout ça s'est déclenché, vous le disiez en début d'entretien, en 35 minutes ?
Oui, parce que le docteur, lui, joue sur le bien-être. Il joue pas du tout sur le dégoût du tabac. Il joue sur la fibre du bien-être. Qu'est-ce que ça apporte ? Comment on peut se sentir libre, épanoui, tranquille ? C'est ces fibres-là qu'il actionne. Alors très certainement que derrière ces fibres-là, derrière ces choses-là, il y a d'autres choses qu'il actionne dont je ne suis pas forcément conscient. Ce que je peux dire, c'est que les mécanismes qui sont mis en route, c'est que dès que j'ai l'envie de fumer, ou dès que j'avais, parce qu'elle maintenant elle a complètement disparu, mais dès que j'avais l'envie de fumer, tout de suite réapparaissait quelque chose, je dirais pas d'anxiogène, mais où on avait un mal-être. Moi, j'ai toujours ce goût-là qui revient dans la bouche, les odeurs, etc., qui était absolument... Et puis quelque chose qui se referme et qui est pas du tout ouvert. C'est juste pour ne plus avoir envie de cette envie.
Ce témoignage, Jean-Marc Benayem, docteur, le tabac, d'autres addictions que l'on peut justement faire passer dans l'oubli grâce à l'hypnose?
Oui, le tabac est peut-être plus simple que d'autres, comme l'alcool, le cannabis, la cocaïne, on en voit bien sûr, et puis les troubles du comportement alimentaire, là c'est un bon chemin.
Vous restez avec nous, docteur Jean-Marc Benayem, docteur Grégory Choucroune, on va continuer de parler de l'hypnose, de l'hypnose médicale, tout de suite après cette pause en musique avec Madison McFerrin, No Time to Lose.
You didn't want it before, so why are you here waiting? I don't understand why you think I am contemplating on ways for you to love again. Everything that you're missing, saying a premonition, got you a change in your mind. Boy, stop your reminiscing, 'cause I won't play the fool again. Every day you're gone, every day I move on, 'cause it is plain to see that you weren't meant for me. 'Cause I ain't got the time to lose on you, on you. No, I ain't got the time to lose on you, on you. No, you didn't need me before, so why are you here begging? Looks like you didn't think of everything before letting me out of sight. 'Cause now you're like, can I come around? Say you're missing the sound of my everyday. You can stay away, 'cause
Time to Lose, Madison McFerrin sur RFI et vous écoutez toujours Priorité Santé. On retrouve nos invités en studio pour cette seconde partie de l'émission consacrée à l'hypnose. Docteur Jean-Marc Benayem, médecin hypnothérapeute au centre de la douleur à l'Hôtel Dieu à Paris, qui dirige aussi le diplôme universitaire d'hypnose médicale à Paris 6, Pitié-Salpêtrière. Et puis le docteur Grégory Choucroune, cardiologue, hypnothérapeute à Paris, qui a signé l'ouvrage « L'hypnose, comment ça marche ?» aux éditions InPress, une collection que dirige justement le docteur Jean-Marc Benayem. Dans la première partie de l'émission, on a décrit le déroulement d'une séance d'hypnose, les principes et indications de cette pratique à des fins médicales. Cette hypnose qui offre une perception élargit cette pratique qui permet aux patients hypnotisés de se détacher d'une position inadéquate en mobilisant son imagination notamment, avec pas mal de préjugés sur l'hypnose, docteur Grégory Choucroune, peut-être en lien avec ce qu'on évoquait tout à l'heure en parlant du spectacle d'hypnose, de pratique de manipulation aussi. Un auditeur se demandait même si ce n'était pas un petit peu de la magie.
Alors c'est un peu de mystère, c'est vrai, mais il faut pouvoir établir un contact et de la confiance. Donc c'est avant tout, je pense, moi je suis médecin clinicien de base, donc c'est un outil thérapeutique qui est mis à la disposition à la fois des patients et des praticiens pour pouvoir améliorer la personnalisation des soins au long cours. Et puis de ce qu'on appelle dans nos sociétés l'accès au bonheur, au bien-être, etc. Donc il y a un mystère, c'est vrai, mais il y a un mystère de l'énergie qui est entre le médecin et le patient, mais c'est pas sulfureux, quoi. L'hypnose de spectacle peut avoir ce côté un petit peu sulfureux, Mais les gens viennent voir un spectacle en même temps, donc ils sont consentants. Ils sont là pour être éblouis, épatés, si possible monter sur scène. Là, c'est exactement l'inverse. On vient pour en faire le moins possible, pour établir une relation de confiance. On a, comment dire, une sorte de contrat moral, thérapeutique. Voilà, je viens pour ces symptômes-là, pour arrêter ci, pour faire ça. Et on est à la disposition. Donc, c'est une offre de soins.
Un contrat, docteur Jean-Marc Benayem, quand on passe un contrat, il faut que l'autre personne en face soit fiable. Alors justement, comment choisir un thérapeute digne de ce nom et ne pas se laisser, excusez-moi, embobiner ?
C'est-à-dire qu'il y a un code d'éthique, quand on apprend l'hypnose, il y a un code d'éthique international qui dit que l'hypnose est ajoutée à un savoir préalable. Alors on est médecin, infirmier, dentiste, sage-femme, et on ajoute l'hypnose pour pouvoir faire encore du meilleur travail. Donc c'est un conseil qu'il faut donner à tous ceux qui nous entendent. Avant de consulter un hypnothérapeute, demandez, mais quelle est votre profession ? La connaissance seule de l'hypnose, dit le code d'éthique, ne suffit pas à soigner. Il faut quelque chose, il faut une formation de santé, voilà, bien élaborée, avec beaucoup d'expérience sur la maladie, la mort, etc.
Alors qu'aujourd'hui, on est plutôt dans un certain flou. On va pas parler de flou juridique, mais en tout cas un flou au niveau des compétences et de la définition de ces compétences.
Les résultats d'une séance d'hypnose, les résultats de l'hypnose sont tellement étonnants quand on voit quelqu'un qu'on peut tristement manipuler, ce qu'on savait déjà avec la publicité, mais les résultats sont tellement surprenants que beaucoup s'initient thérapeutes sans avoir toute cette capacité. Donc c'est bien de prévenir, mais on retrouve ça tous les 100 ans. Tous les 100 ans, on retrouve que l'hypnose revient à la mode, tout le monde est un peu stupéfait par les effets de changement en particulier, et tout le monde veut faire de l'hypnose au spectacle, dans le soin, sans avoir une formation sérieuse à la base, et c'est un peu dommage, parce que ça pourrait nuire à cette hypnose qui pourrait redisparaître parce qu'elle est vraiment maltraitée.
Vous dites tous les 100 ans, parce que si on regarde 100 ans en arrière, il y avait de l'hypnose un petit peu de salon aussi, qui était en vogue, on voit ça dans les premiers films qui crépitent en noir et blanc.
Et du temps du découvreur du magnétisme animal, le music hall s'en est emparé. 100 ans plus tard, du temps de Charcot, Freud, pareillement, les hypnotiseurs de music hall s'en sont emparés. Et tout le monde en faisait, même des ecclésiastes, des militaires faisaient de l'hypnose. Et on retrouve cela de nouveau aujourd'hui. Donc on n'est pas étonné, on n'est pas surpris. Mais ça nous, l'inquiétude, c'est que l'hypnose redisparaisse à cause de cette façon de la mettre en avant d'une manière qui n'est pas vraiment la vraie hypnose, celle qui nous aide à sortir d'une souffrance, par exemple.
Alors l'hypnose qui existe et qui vit au Maroc, nous sommes en ligne avec le docteur Myriam Thierry. Bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous êtes médecin.
Bonjour Jean-Marc.
Oui, bonjour Myriam.
Oui, vous connaissez, on va en parler tout à l'heure. Hein. Vous êtes médecin généraliste, président de l'association marocaine d'hypnose clinique à Casablanca. Alors, qui prenez-vous en charge pendant vos séances d'hypnose dans la ville de Casablanca ?
Eh bien, je crois que comme partout ailleurs, des patients qui sont en demande de soins, donc les indications de l'hypnose au Maroc ou ailleurs sont les mêmes. Et puis, je reviendrai sur ce que vient de dire docteur Benayem. L'hypnose, c'est réellement, hein, il a dit, un savoir, c'est quelque chose qui est rajouté à un savoir préalable. Et au niveau de l'association, on insiste beaucoup sur le fait que ce magnifique outil thérapeutique soit utilisé justement par des professionnels de la santé qui vont savoir si c'est le meilleur outil à utiliser dans les indications qu'ils ont à accompagner. Donc voilà, après les indications, ben les patients viennent pour différentes choses. Ça peut être les troubles fonctionnels, ça peut être du stress, ça peut être les addictions, enfin les phobies, tout ce que l'on voit ailleurs, en dentaire aussi. Les dentistes ici se forment de plus en plus à l'outil hypnotique parce que ça vraiment, ça leur permet de faire des soins dans de bien meilleures conditions, en détournant l'attention, j'ai envie de dire, des patients qui sont un petit peu stressés, etc. Et du coup, ça se passe beaucoup mieux. Et puis, il y a toutes les autres indications classiques de l'hypnose qu'on va retrouver ici, comme en France ou ailleurs.
Docteur Myriam Thierry, est-ce que les gens y ont fréquemment recours au Maroc ?
Ah non, fréquemment, non, nous sommes encore très très loin de ce qui se passe en France. Hein. Il faut savoir qu'on commence à parler de l'hypnose comme outil thérapeutique utilisé par des professionnels de la santé depuis, on va dire, une dizaine d'années où on en parle. Parce que justement, comme disait le docteur Benaïm, malheureusement, la connaissance de l'outil hypnotique ne suffit pas à soigner. Et donc les médecins se méfiaient beaucoup de cet outil-là parce qu'il peut être utilisé finalement par n'importe qui, et c'est un peu le danger, d'où le fait que nous avons créé cette association, qui est une association réservée aux professionnels de la santé, où on ne forme que des professionnels de la santé, et c'est par le biais de ça que les professionnels sont venus s'intéresser à l'outil hypnotique qui faisait peur. Il y avait vraiment une inquiétude, qu'est-ce que c'est, comment ça marche, est-ce que c'est pas du charlatanisme? Et puis les preuves scientifiques, les études cliniques, le sérieux des... maintenant c'est des milliers de travaux scientifiques qui ont été publiés dans des revues de qualité. Les preuves sont là, les techniques d'imagerie médicale commencent à nous faire comprendre comment ça marche. Donc les médecins s'intéressent de plus en plus, mais aujourd'hui au Maroc, on a à peu près, au niveau de la MINC, nous avons aux alentours de 230 professionnels de la santé à ce jour formés à l'hypnose.
Et au niveau de la formation, beaucoup de gens sont intéressés. Comment ça se passe ?
Alors beaucoup, vous voyez, nous sommes à 220, c'est essentiellement des médecins à 95%. Après, on a des infirmiers, on a des psychologues, de plus en plus de dentistes qui viennent se former. Mais vous savez, 220 médecins ou professionnels sur, on est à plus de 13 000 médecins au Maroc. Donc c'est vraiment tout petit. Ça fait depuis 2010 qu'on communique beaucoup. On va d'ailleurs organiser en février 2018 un congrès à la faculté de médecine, notre deuxième congrès marocain d'hypnose clinique, où on fait venir, docteur Benaïm nous fait l'honneur d'être parmi nous, et puis nous aurons d'autres experts francophones pour sensibiliser le corps médical et puis aussi tous les autres professionnels de la santé à l'intérêt de cet outil, parce que c'est un fabuleux outil thérapeutique. Moi, je dirais que d'abord et avant tout, nous, on insiste sur le fait que, avant tout, l'hypnose, ça apporte quelque chose dans la communication, ne serait-ce que d'être formé à cet outil, va améliorer la relation médecin-patient. Et puis je crois aussi qu'il ne faut pas oublier qu'on assiste à l'avènement d'une ère nouvelle avec l'intelligence de l'artificiel. On est aux prémices d'une médecine qui est robotisée, qui est quasi infaillible, qui fait des diagnostics, qui donne des traitements quasiment infaillibles. Alors quel est le rôle du médecin ? Quel rôle reste-t-il à jouer pour le médecin quand les ordinateurs sont capables de faire des diagnostics et de proposer des traitements, ma foi, très fiables? Peut-être que le rôle principal du médecin, c'est aussi d'être dans la communication, dans l'humain, de redéployer cette part de l'humain. Et c'est ce qu'on dit aux médecins. Venez apprendre cet outil qui va vous permettre d'améliorer votre communication, qui va vous permettre de répondre aux besoins des patients, d'une relation de meilleure qualité, et puis de retrouver la part du langage, l'importance du langage, du poids des mots qui peuvent être thérapeutiques comme ils peuvent être très destructeurs quand on n'est pas conscient de l'impact des mots qu'on emploie. Donc ne serait-ce qu'en ça, si nous arrivons à dire aux soignants que se former à l'hypnose va permettre d'avoir une relation de meilleure qualité, une relation médecin-patient de bien meilleure qualité, eh bien c'est déjà pour nous, au niveau de l'association, un enjeu majeur. Et puis en plus, l'hypnose en elle-même est thérapeutique. Donc il y a tout à gagner aujourd'hui.
Deux enjeux, Deux enjeux, docteur Myriam Thierry. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes médecin généraliste, président de l'association marocaine d'hypnose clinique à Casablanca. Docteur Jean-Marc Benaïm, on explique l'hypnose et ceux qui en parlent, on vient de l'entendre, sont convaincus. On sent quasiment un attachement comme si c'était au-delà d'une pratique médicale, au-delà d'un savoir, quasiment un attachement, une affection pour cette pratique. J'ai du mal à expliquer, mais c'est ça ce que je ressens.
Oui, c'est vrai, parce que le labor scientifique cherche du général. Il faut avoir des règles générales, un protocole général, et ce qui est tout à fait intéressant, bien sûr, alors que l'approche de l'hypnose, elle cherche le singulier, c'est-à-dire qu'est-ce qui, on l'a entendu tout à l'heure avec le docteur Choucroune, on voyait bien qu'il ne donne pas des règles, des protocoles déjà préétablis. On sentait bien qu'il décrivait, mais on va voir comment ça va se passer avec ce patient. Ce sera différent avec un autre, il va falloir que j'invente quelque chose. Freud disait, si on veut faire de l'hypnose, il faut sans arrêt avoir de l'invention, de l'imagination, d'être très présent au patient pour pouvoir créer une situation nouvelle qui correspond à la... Et c'est ça l'attachement que l'on ressent, c'est qu'en fait, on s'intéresse à quelqu'un. François Roustan disait, mais qui est cette personne devant vous? Donc la technique nous rend des services considérables, évidemment. Mais ensuite, on a une personne devant nous, pas un objet qu'on soigne ou qu'on répare. Et si on approche cette personne, elle va nous donner des clés. C'est-à-dire, elle va sortir de la peur pour les soins, elle va sortir de la souffrance. C'est par cette relation que cette personne se met à exister. Et c'est tout à fait touchant de voir que, par exemple, en anesthésie, en réanimation, une personne à qui on a quasiment sauvé la vie parce qu'elle a été réanimée va vous dire « Oui, merci, oui, d'accord, au revoir. » Et puis une autre avec qui on aura juste fait de l'hypnose pour un petit pansement va s'en rappeler pendant des années parce que simplement on s'est intéressé à cette personne, on lui a parlé, elle a ressenti qu'on s'est intéressé.
On a retissé
un lien. On a tissé un lien, on ne l'a pas considéré comme un objet.
Docteur Grégory Choucroune, la cardiologie, c'est votre spécialité, c'est ultra spécialisé, c'est ultra maintenant haute technicité, un niveau de savoir énorme, et à côté, l'hypnose. Qu'est-ce qui vous a fait passer de l'un à l'autre?
Alors, vous avez raison, c'est une discipline que j'aime, hein, la cardiologie, extrêmement technique, très médicalisée, très protocolisée, avec une pharmacopée impressionnante.
Une chirurgie extraordinaire.
Voilà, la chirurgie interventionnelle marche magnifiquement, avec beaucoup de progrès. On arrive quand même, au niveau de la consultation, à être en contact avec une seule personne, malgré tout ça. Et il faut pouvoir parfois dépasser un petit peu l'organigramme préétabli du soin au patient en fonction de telle tension, tel dosage de cholestérol, on va donner tel médicament, ça suffit pas. Des patients viennent consulter aussi pour des symptômes un petit peu atypiques. Les symptômes, c'est du ressenti. Et donc, ils consultent pour des choses qui sont ressenties. Et nous, on va faire le lien objectif avec ce qui existe au niveau morphologique, physiologique. Et si ce lien objectif, en fait, montre qu'il y a une petite discordance, il se passe pas grand-chose au niveau physiologique, mais pour autant, les symptômes sont là, l'anxiété est là, les palpitations sont là, à ce moment-là, on sent qu'on a affaire à quelqu'un qui a besoin d'une autre approche. Et ça peut être un outil intéressant et important. Ça peut traiter l'hypertension, ça peut traiter le tabac, ça peut traiter les symptômes, et puis ça peut permettre de rentrer dans une autre dimension de sa vie. C'est du soin au long cours et c'est aussi de la prévention cardiovasculaire.
Et c'est justement ce qu'on aborde au quotidien dans cette émission. À chaque fois, on parle de la maladie, des symptômes, des choses, je dirais, dures. Et puis à côté, il y a la prévention, l'hygiène de vie. L'hypnose, c'est aussi ça, docteur Benayem, cette hygiène de vie. Il y a aussi des choses qui sont de l'ordre du spectaculaire. Moi, je voudrais vous poser des questions sur, par exemple, la régression hypnotique. Comment ça marche, ce genre de choses? Parce que quand on est assez cartésien, assez matérialiste, on voit des choses comme ça, on a du mal à comprendre.
Alors, il y a quelques situations un peu, je dirais, qu'on ne conseille pas, comme celle qui ce serait d'accorder une vérité historique à des souvenirs qui réapparaissent pendant une séance d'hypnose. C'est un grand danger, ça a donné lieu à de grands problèmes aux États-Unis, où on accordait crédit à des souvenirs, des remémorations de traumatismes. On dit non, la mémoire, c'est une fonction vivante qui est sans arrêt remaniée, dit modifiée. On ne peut pas accorder de la vérité à quelque chose qui revient. On peut certainement essayer de faire de l'imagination, dire « Ah, mais c'était agréable, je me souviens que je me promène avec ma maman, je me souviens que je suis à la plage, je me souviens... » Ah, tous des magnifiques souvenirs, mais pas plus que ça.
Et quand on parle d'amnésie traumatique, alors?
Alors là, c'est différent. Il y a des traumatismes violents, des accidents de voiture, des agressions, où la personne reste comme sidérée bloquée sur une souffrance, un accident, un drame. Et là, l'hypnose, ça n'est pas de se souvenir du traumatisme, mais c'est au contraire de le modifier, de le réinterpréter. De, par exemple, quelqu'un disait « j'ai très peur de reprendre la voiture, je suis terrorisé, je me souviens de l'accident, qui la voiture est tombée dans le fossé ». Alors, on lui a proposé un exercice qui l'a aidé. Je lui ai dit « est-ce que vous pouvez vous mettre à l'extérieur ?» Elle me dit « oui ». Et elle a vu, je me dis « là, je suis en train de voir la voiture qui quitte la route, qui fait des tonneaux, il y a une dame à l'intérieur qui est elle, bien sûr ». Et par la distance qu'elle a prise avec cet accident, elle a, ça lui a enlevé l'aspect émotionnel. Ça, c'est une grande action de l'hypnose. On réduit la composante émotionnelle d'un drame, d'un choc, d'un accident, d'un trauma. Et en réduisant cette composante émotionnelle, la personne sort de la peur et elle va pouvoir de nouveau revenir dans la vie plus tranquillement.
Autre définition que je vous demande, docteur Jean-Marc Benayem, c'est quoi l'auto-hypnose ?
Il y a deux auto-hypnoses. Il y a l'auto-hypnose, par exemple, ce garçon qu'on a entendu et qui ne fume plus. Il nous a dit, on l'a entendu, dès que je repense au tabac, je suis pas bien. J'ai comme une aversion, une répulsion. Donc finalement, la séance a installé une sorte d'auto-hypnose spontanée. C'est la meilleure auto-hypnose. La personne est tranquille, elle est déconditionnée. Et puis, de temps en temps, eh ben non, il faut que la personne refasse l'exercice, elle s'approprie un exercice qui va l'aider. Il y a maintenant quelques ouvrages d'auto-hypnose qui sont vraiment de grande qualité, comme celui du docteur Chamy et du docteur Damien Duperron, et qui donnent des exercices d'auto-hypnose qui sont passionnants, et la personne ainsi se modifie par elle-même.
Et si on voulait synthétiser, docteur Grégory Choucroune, qu'est-ce que peut apporter l'hypnose au quotidien ? Moi, en vous lisant, j'ai pensé davantage de cohérence.
Oui, c'est ça. En fait, l'idée, je pense, vous avez raison, c'est de pouvoir s'accorder une vraie place dans la vie. C'est un peu le souci du commun des mortels. On vit dans un monde compliqué qui va très vite. On est déconnecté ou trop connecté. Et je pense que ce qu'on peut ressentir au décours d'une séance d'hypnose, c'est qu'on a eu du temps pour soi, de l'espace pour soi, et qu'on n'est plus dans une projection ni dans des remémorations qui soient nocives, toxiques. On se recentre un petit peu, on retrouve sa dimension, son espace, sa liberté. Et je pense que c'est important de pouvoir vivre avec cette notion-là. Alors ça peut être un petit peu psychologique ou ça peut être un vœu pieux, mais je pense que c'est faire acte de santé que de proposer aux gens d'être débarrassés de tout conditionnement extérieur et de retrouver sa propre liberté, ça veut dire sa propre place dans son corps, surtout parce qu'on est incorporé. Et avec un psychisme clair et libre. Et je pense que c'est quelque chose qui peut apporter beaucoup pour le en termes de prévention, en termes humains, en termes de contact et en termes personnels.
Merci beaucoup d'avoir éclairé les auditeurs de Priorité Santé sur l'hypnose. Merci à vous, docteur Jean-Marc Benayem. Je rappelle que vous êtes médecin hypnothérapeute au centre de la douleur. À l'hôpital.
L'Hôtel-Dieu.
À l'Hôtel-Dieu, comme j'ai déjà dit plusieurs fois au cours de cette émission, mais à trop vous écouter, mes idées s'en vont. Directeur du diplôme universitaire d'hypnose médicale de Paris 6 Pitié-Salpêtrière.
Vous êtes hypnotisé, je crois.
On va voir ça en sortie d'émission. J'ai encore quelques minutes à tenir si vous voulez bien. Et puis, vous m'avez embrouillé, c'est terrible. Oui. Ça marche. Docteur Grégory Choucroune, cardiologue, hypnothérapeute à Paris, auteur de l'ouvrage L'hypnose, comment ça marche, je ne sais plus parler, aux éditions Inpresse. Et pour en savoir plus, un documentaire très complet qui a été diffusé cet automne sur la chaîne Arte, sorti chez Arte Éditions, Les fabuleux pouvoirs de l'hypnose, dans lequel on peut vous voir, docteur Jean-Marc Benayem, en plein cours, en amphi, en train d'enseigner justement l'hypnose à des médecins. Documentaire qui montre d'ailleurs que l'hypnose occupe des spécialistes de la planète, de la Belgique aux États-Unis, en passant par l'Italie. Film signé Thierry Béraud et Jean-Pierre Gaudry. C'est le moment de retrouver le docteur Jean-Marc Sen. Bonjour docteur.
Bonjour Caroline.
Vous êtes médecin du sport, médecin de l'équipe de France de judo. Dans Priorité Santé, vous nous expliquez les bienfaits du sport. Mais il existe des situations où, à l'inverse, il y a des effets néfastes pour la santé, puisqu'aujourd'hui, on va parler du dopage avec cette première question. Pourquoi certaines personnes, certains athlètes, certains sportifs se dopent-ils ?
Eh bien Caroline, évidemment, c'est la recherche, le premier motif, c'est la recherche de performance. Alors là, évidemment, l'idée, c'est d'augmenter ses performances physiques ou intellectuelles, ou à l'inverse, d'éviter de les diminuer. Alors, évidemment, le sportif, dans ces cas-là, va chercher à agir sur les éléments qui vont contribuer à ce qu'il pense être sa performance, c'est-à-dire la masse musculaire, améliorer son endurance, sa combativité, sa concentration, ou bien sur les éléments qui s'y opposent, hein, l'anxiété, le stress, la fatigue. Alors, plus profondément, évidemment, les difficultés de la vie quotidienne sont vraiment une des sources hein, du dopage. Le fait de ne pas être soutenu, d'être dans l'incapacité de demander de l'aide, d'avoir une sociabilité altérée, on sait que ça favorise, c'est le terreau du dopage. C'est aussi des facteurs liés à l'entourage. Hein, l'entourage qui peut inciter au dopage, ses coéquipiers, la culture excessive de la performance ou du résultat sont aussi des facteurs majeurs. Et puis enfin, c'est des facteurs liés à la substance. Hein, le fait d'avoir une facilité pour se procurer, par exemple sur Internet, d'avoir un coût peu élevé, eh bien tout cela va favoriser la pratique des conduites dopantes.
Alors, quels sont les produits utilisés par les sportifs? Quels sont d'abord leurs effets et également leurs dangers?
Eh bien, Caroline, il y a de nombreuses substances qui sont utilisées. Hein. Alors, évidemment, les premières qui nous viennent à l'esprit, c'est les stéroïdes anabolisants et l'hormone de croissance, voire parce qu'elles augmentent la masse musculaire. Alors, les stéroïdes anabolisants, c'est vrai, vont augmenter la confiance en soi et la combativité, mais ça favorise les ruptures musculaires et tendineuses. Ça entraîne des troubles de la personnalité. Vous savez, la fameuse rage des stéroïdes, hein, ces sportifs qui rentrent en rage tout simplement parce qu'ils sont sous stéroïdes anabolisants. Ça bloque la croissance chez le plus jeune. Hein. Et puis, ça développe les caractères sexuels masculins comme une grande pilosité. L'hormone de croissance hein, modifie l'architecture du squelette. Hein. Ça augmente la taille des pieds, des mains. Ça favorise aussi les cancers digestifs. Le salbutamol, vous savez, c'est ce médicament qui est fait pour traiter l'asthme. Mais à forte dose, il agit également en augmentant la masse musculaire. Malheureusement, il favorise aussi les troubles du rythme cardiaque. L'érythropoïétine, la fameuse EPO hein, qu'on utilise pour augmenter le nombre de globules rouges, pour augmenter l'apport d'oxygène dans les muscles. Et c'est vrai que ça augmente l'endurance. Malheureusement, ça favorise les embolies pulmonaires et l'infarctus du myocarde. Les corticoïdes, hein, ils sont faits pour diminuer les douleurs ou la fatigue. Malheureusement, ça favorise les œdèmes par la rétention d'eau, les morts subites par insuffisance surrénalienne et puis les ruptures tendineuses. Enfin, on terminera par les amphétamines et la cocaïne qui sont de formidables stimulants, c'est vrai. Ils agissent sur la vigilance, la concentration, la combativité. Par contre, ça favorise les troubles du rythme cardiaque avec des arythmies. Ça favorise la déshydratation, des troubles psychologiques et psychiques. Et puis, ça rend surtout dépendant à ces produits.
Alors, on a entendu hein, ces effets très inquiétants, voire carrément dramatiques. Mais il faut le dire, hein, bien sûr, il est possible d'avoir d'excellentes performances sportives sans produits dopants.
Mais absolument, Caroline, ça, il faut le rappeler. Il existe des moyens naturels efficaces qui ne présentent pas de risque pour la santé, bien au contraire, et qui permettent d'obtenir des résultats. La première chose, c'est l'hygiène de vie adapté et de qualité. La qualité du sommeil, ça on ne le répétera jamais assez, ça favorise la récupération des efforts, ça améliore la cicatrisation des blessures. Par exemple, on parlait de l'hormone de croissance, il faut savoir que si on manque de sommeil, on divise par 5 sa sécrétion naturelle d'hormone de croissance. L'alimentation saine et variée, l'absence de prise de toxiques hein, qui nuit à la récupération et la bonne programmation de l'entraînement, tout cela qu'il faut favoriser en qualité plus qu'en quantité, tout cela favorise bien évidemment la performance. Deuxièmement, ne pas oublier la force du mental. Un sportif qui est respecté par son entraîneur, ses coéquipiers, par le médecin qui s'en occupe, bien entouré par sa famille, eh bien, va être dans de meilleures conditions psychologiques pour pouvoir performer. Et puis, bien sûr, il ne faut pas oublier d'être à l'écoute de son corps, hein, être attentif à sa fatigue, savoir récupérer, à la douleur, qui sont des signaux d'alerte. Donc, vraiment, si on peut donner un conseil à nos auditeurs sportifs, il faut qu'ils sachent qu'ils sont toujours libre de refuser de prendre tout produit dopant, inutile de discuter et dans tous les cas, il ne faut pas rester seul et en parler de suite à quelqu'un de confiant.
Merci docteur Jean-Marc Sen, je rappelle que vous êtes médecin du sport, médecin de l'équipe de France de judo. Et lundi, dans Priorité Santé, nous parlerons des perturbateurs endocriniens, une émission qui vous sera présentée par Chantal Laureau. Si vous voulez bien sûr poser vos questions, le numéro de l'émission, c'est le 33 84 22 75 75. À lundi.
C'était Priorité Santé avec Suno Assurance. Profitez d'une assurance santé complète et efficace où que vous soyez. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.